Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450-546-1037, poste 2025.
Comme à chaque deux semaines, là, on a étiré un petit peu à cause de mes vacances la semaine dernière, mais on va aller rejoindre Benoît Lapierre, politologue. Salut, Benoît.
Bonjour, Daniel, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui, très bien, merci.
Donc, là, on commence. Premier sujet, on va parler de l'air Charest.
Oui, en effet, la raison pourquoi c'est revenu dans les médias, c'est que le Parti libéral du Québec avait fait une soirée pour souligner l'anniversaire des 20 ans de la prise de pouvoir du Parti libéral du Québec sous la bannière de Jean Charest. Donc, ça a été l'occasion de célébrer pour tous les anciens libéraux. On a vu beaucoup d'anciens ministres qui se sont rassemblés pour souligner les bons coups de cette époque-là. Et, entre autres, la raison pour qu'on en parle aujourd'hui, c'est que il y a certains anciens ministres libéraux qui ont fait un communiqué dans la presse du 14 avril. Benoît Pelletier et Monique-Jérôme Forgette ont vraiment fait un long texte pour expliquer pourquoi ils considéraient que l'air Charest ou l'air du Parti libéral d'il y a 20 ans, c'était une bonne chose. Donc, c'est vraiment un texte où ce qu'il racontait, où il soulignait tous les bons coups du Parti libéral du Québec sous Jean Charest. Donc, parmi les bons coups, il y avait le fait que Jean Charest a été le premier ministre à faire un conseil paritaire 50% hommes, 50% femmes. Il y a la création du Fonds des générations, une certaine discipline budgétaire, la mise en place des congés parentaux, que j'ai pu profiter avec ça, et ça, je le remercie beaucoup, M. Charest, d'avoir mis des longs congés parentaux pour pouvoir profiter d'un nouvel enfant naissant. L'enseignement de l'anglais dès la première année, la création d'une bourse du carbone, avec un partenariat avec la Californie, le fameux plan Nord pour essayer de développer les ressources naturelles dans le Nord, et justement, après ça, ils finissent, c'est un long texte où ils finissent les éloges en disant, il y a 20 ans, ce jour même, le Québec se donnait résolument le moyen de ses ambitions. Donc, toutes les personnes qui n'étaient pas libéraux ont quand même réagi et en premier chef, Mathieu Bock-Côté, dans le Journal de Montréal, la journée même, avait écrit un papier pour essayer de faire un contrebalancement pour dire que Jean Charest, oui, il y avait certains bons coups, mais qu'il y avait d'autres choses qu'il ne fallait vraiment pas oublier, comme le fait que pendant toute sa gouverne, le Québec s'avait anglicisé, le pourcentage de francophones continuait à diminuer dans la province. Il y avait aussi eu la crise des accommodements raisonnables, vous vous rappelez, en 2006-2007, quand c'était vraiment un gros sujet où ce qu'on avait parlé, et que, selon Mathieu Bock-Côté, il avait laissé pourrir la situation au lieu de donner des vraies lignes directrices. Il avait vraiment laissé ça à un peu monsieur, madame, tout le monde, comment juger, qu'est-ce qu'on donne, et que, justement, supposément que le débat avait pourri à cause de son inaction. La dégradation de la vie démographique, parce que là, on l'a vu avec la commission Charbonneau, là, il rappelle ça, toutes les soupçons de collusion et de corruption qu'il y avait eu à l'entour de ça. Et finalement, il y avait aussi la grève étudiante qui avait laissé pourrir et que ça avait duré plusieurs mois et que, justement, au lieu de prendre le taureau par les cornes, il avait laissé pourrir la situation. Donc ça, c'était le bilan de Mathieu Bock-Côté. Sinon, il y avait aussi José Legault, encore dans le Journal de Montréal, de cette même journée-là, le 14 avril, le même jour que le pamphlet libéral qu'il y avait eu dans la presse. Et elle disait que c'est vraiment la raison pourquoi les libéraux célèbrent, c'est que Jean Charest, ça a été le dernier grand chef libéral qui permettait de faire de gagner des élections. Et là, une citation que j'avais bien aimée là-dedans, c'est vraiment Jean Charest, c'était une machine à ramasser de l'argent, puis ça, c'est les mots de l'ex-président du PLQ qui disait ça. Et tout ça, même si c'était une bonne qualité pour un parti politique, sauf que pour la population en général, ben ça soulève les soupçons de copinage et de corruption qui n'a jamais arrêté de vraiment flotter au-dessus du Parti libéral du Québec depuis ce temps-là. Et elle finit son texte en disant que dans le comité pour essayer de trouver les réorientations du PLQ pour les prochaines années, il y a Antoine Dion-Charest, le fils de Jean Charest, qui est sur ce comité-là. Et là, elle finit son texte en se demandant si on allait finir par avoir une certaine dynastie Charest, un petit peu comme avec les Trudeau au Parti libéral du Canada. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle voulait voir. Et finalement, là, j'ai pris une petite chronique d'une radio où c'est Jonathan Trudeau qui dit que lors de ce meeting-là, pour souligner les anniversaires, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de libéraux ensemble, contents, et que là, il se demandait bien quel homme politique pourrait s'arranger pour qu'on retrouve cette situation-là dans l'avenir.
Ouais, hein? Ouais, ça va donc être à suivre. Ensuite, on va se parler de Twitter versus Radio-Canada.
Oui, donc c'est ça. Twitter, on le sait, depuis qu'Elon Musk est là, ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup couler d'encre. Et là, la dernière chose qui est arrivée, c'est que, pour donner un petit peu de contexte, Pierre Poilievre, le conservateur au fédéral, avait déjà dit son intention que, bon, ben Radio-Canada, on devrait peut-être définancer ça. Ben, lui, il parlait surtout de la CBC, le côté anglais, ouais. Comme quoi que c'était vraiment, il y avait des biais anti-conservateurs, plutôt pro-libéraux, et que là, lui, il trouvait que, justement, c'était pas bon pour la démocratie, pour avoir un débat sain. Et, en parlant de ça, après ça, il avait fait... Ça s'est rendu aux oreilles d'Elon Musk sur Twitter. Et Twitter, justement, on a vu dans les derniers jours, avait changé, avait mis un label en dessous de Radio-Canada pour dire que c'était un parti, ben, que c'était un média financé par les gouvernements. Un petit peu comme on l'a vu avec il y a Russia Today, qui a le même genre de label en dessous, les médias chinois, mais il n'y a pas juste eux autres, ça, c'est les gros, quand on pense à ça. Il y a aussi France 24, une télévision française, de, moi, je trouve, vraiment de qualité, ou à RFI, Radio France Internationale, qui a le même genre de label-là. Sauf qu'au Canada, si ça n'a vraiment pas passé, on a vu, après ça, que CBC a annoncé qu'il allait arrêter d'utiliser Twitter parce qu'il trouvait que c'était un label mensonger, et tout, et tout. Et là, on a vu dans les médias qu'il y a quand même eu une levée de bouclier là-dessus pour défendre la décision de Radio-Canada de ne pas accepter ce label-là et faut pas se battre, mais en tout cas, essayer de défendre son point. Il y a Pierre Trudel, dans le Devoir du 17 avril, où ce qu'il dénonce aussi le fait que Radio-Canada a genre de label, la même chose que Russia Today ou les médias chinois, parce que Radio-Canada, même si elle est financée par le gouvernement, elle ne reçoit pas de pression politique. Et là, dans son texte, il dit que justement, la liberté d'expression, c'est trop sérieux, que c'est important, les médias publics, pour ne pas avoir de pression, et que justement... Vu que c'est important, il ne faut pas que ces lignes éditoriales-là soient sous la pression des politiciens. Donc là-dessus, ça, c'était plus un coup de gueule contre le discours de Poilievre plus que l'étiquette d'Elon Musk. Mais ça, on voyait vraiment dans l'affaire que lui, il trouvait que les médias publics, c'était important, que ça devrait être rester important, rester indépendant, même s'il y a des financements publics. Et après ça, il y a eu, là, c'est la rédactrice en chef du Devoir, Louis Maud Rioux, souci, encore dans le Devoir du 17 avril, où il dit que, bon, elle est vraiment pas contente à propos de la décision d'Elon Musk. Il dit, faut appeler ça un chat, c'est de la désinformation. Même si sont financés, il n'y a pas de ligne directrice, c'est pas vrai que Justin Trudeau, ou peu importe le gouvernement, qui vienne donner des directives, que c'est important de faire la différence, et important aussi d'essayer de garder la confiance du public par rapport aux grands médias comme ça. Donc, après ça, elle aussi, elle s'attaque, après ça, Pierre Poilievre, que justement, c'est indigne de la fonction qu'il inspire de devoir s'attaquer comme les médias, comme qu'il fait, et qu'elle fait un petit rapprochement avec Donald Trump. On sait que lui aussi, il s'attaque souvent aux médias, donc elle faisait un parallèle là-dessus avec ça.
Ben oui, puis c'est quand même drôle parce que j'avais entendu aussi cette semaine, ça disait qu'il disait que Pierre Poilievre attaquait seulement la CBC et non Radio-Canada. Puis là, il y en avait qui avait dit, ben pas Radio-Canada, c'est bien sûr, il veut aller chercher des électeurs francophones, on va faire attention aux médias en français. En tout cas, c'est toute une histoire, cette affaire-là.
Oui, non, ben c'est vrai que quand on regarde ça, que lui, il a vraiment plus tapé sur la CBC. Peut-être bien aussi qu'il y a des chroniqueurs à la CBC qu'ils rentrent sous la peau de Pierre Poilievre. Des fois, il y a des choses plus comme ça, mais que c'est vrai que les conservateurs, on le sait, pour pouvoir espérer avoir formé un gouvernement, il faut avoir quand même un certain pourcentage de vote au Québec ou un énorme pourcentage de vote en Ontario. Donc, je crois que c'est un calcul politique pour sa part de ne pas trop taper sur Radio-Canada, essayer de garder une bonne presse au Québec ou au moins pas perdre de points sur ce dossier-là avec ça. Donc, oui, ça, on l'a vu avec ça, avec la CBC et non Radio-Canada, que là, on peut se demander c'était quoi le calcul politique de Poilievre en arrière de cette décision-là, de vraiment de s'attaquer sur un pendant la radio d'État au lieu de l'autre.
Oui, c'est ça. Bon, ben merci beaucoup, Benoît, puis on se retrouve dans deux semaines.
Merci, bonne journée.
Bonne journée, à bientôt.